C'est le téléphone portable. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, aimez-vous Oscar Pistorius?
Ah.
L'admirez-vous? Le prendriez-vous comme modèle? Non? Comme source d'inspiration pour vos enfants quand vous en aurez, si vous en avez un jour? Non? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont jamais entendu parler de Oscar Pistorius? Parfait. Jamais entendu parler. Alors, Oscar Pistorius, c'est un athlète sud-africain qui est amputé des deux jambes. Et il fait l'objet d'un retournement médiatique ces derniers jours. Pendant des mois, des années, il était montré comme modèle, considéré comme un exemple pour son courage et son volontarisme, car il a été le premier athlète handicapé à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'été, non paralympiques, donc pour les personnes valides, et c'était sur le 400 mètres, et il s'était pas trop mal débrouillé. Mais maintenant, il est surtout connu pour quelque chose de très sombre, puisque ces derniers jours, sa compagne a été retrouvée morte à son domicile, et ce que l'on voit dans les médias pour l'instant, c'est qu'il lui aurait tiré dessus. Donc je respecte la présomption d'innocence, mais ce qui est clair, c'est que cet homme qui était considéré comme un modèle, il est devenu un symbole de déchéance pour beaucoup de personnes. Hier soir, j'avais un peu de mal à me plonger dans ma prédication pour commencer à rédiger au propre. Et donc, je me baladais sur Internet et je suis tombé sur Courrier International, un article tiré du quotidien anglais The Independent, et qui commençait par ce qui suit. « Affaire Oscar Pistorius, le culte des sportifs doit-il être encouragé ?» Comme le démontre l'affaire Oscar Pistorius, idolâtrer les sportifs et les ériger en modèles peut se révéler dangereux. D'une part, parce que ces héros ont leur fragilité, d'autre part, parce que ce genre de référence a ses limites. Fin de citation. Donc, et même avant ce fait divers, le genre de thématique qui est revenu régulièrement dans la presse ces derniers temps, c'est comme si on se rendait compte que notre société avait de mauvais modèles. À propos de deux joueurs de football américain, le magazine Christianity Today écrivait il y a trois semaines que même les athlètes chrétiens faisait de bien piètres exemples au niveau moral. Et pourtant, c'est bien d'un sportif que nous allons parler ce soir. Et d'un sportif très particulier, qui se donne en modèle et qui a raison de le faire. Lui, il a raison. Mais bon, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Au cas où vous n'étiez pas présent les semaines précédentes, et que vous ne seriez peut-être pas familier avec la Bible, le texte dont nous allons parler ce soir est tiré d'une lettre écrite par l'apôtre Paul il y a un peu moins de 2000 ans. Il écrit à l'église des Philippiens, c'est-à-dire à une communauté de chrétiens originaires de la ville de Philippe, en Macédoine, dans le nord de la Grèce. Et je vous propose maintenant de lire le texte d'aujourd'hui, donc dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3. Et donc il va s'afficher là. Oui. Je ne sais pas si c'est très lisible en fait. Vous arrivez à lire tout au fond? Non? Bon. De toute façon, je vais le lire. J'espère pour. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et là, je suis bien embêté parce que je viens de me rendre compte que j'ai travaillé sur une version différente de celle que j'ai mise sur mon PowerPoint. Mais bon. Donc si vous avez une seconde 21, si vous avez un, les citations que je ferai seront plutôt tirées de ce texte-là. Donc voilà. Alors, dans le chapitre 2, Paul a parlé de Jésus comme d'un modèle d'humilité, d'oubli de soi et d'amour. Et ce que nous avons vu la dernière fois, c'est qu'il a donné ensuite des exemples de mise en pratique en parlant de lui-même et de deux de ses collaborateurs, Timothée et Épaphrodite, que les destinataires de sa lettre connaissaient bien. Comme vous le voyez, le texte de ce soir est très riche et il aborde des thématiques variées qui justifieraient à elles seules un enseignement complet. Chaque verset quasiment pourrait suffire pour une prédication complète. Donc je vais tenter de rendre justice à ce chapitre en abordant les principaux aspects maintenant. Alors j'espère pas trop vous perdre parce que c'est très dense. Donc on a un mélange d'attaques contre des thèses erronées, des rappels de la saine doctrine, une mise en avant de l'exemple de l'apôtre et encore d'autres choses. Mais en général, ce qu'on retient de ce chapitre, de ce passage, c'est la métaphore, l'exemple de la course chrétienne. Et c'est là-dessus que nous allons bâtir notre réflexion pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de ce chapitre. Nous allons voir tout d'abord qu'il nous faut courir sur terre, ensuite qu'il faut courir de la bonne manière, et enfin, il faut courir de la bonne manière pour gagner le ciel. Donc ça constituera le plan de notre étude de ce soir. Donc tout d'abord, courir sur terre sans se laisser détourner. Nous sommes sur terre. Paul était sur terre. Les Philippiens étaient sur terre. Et c'est sur terre que nous vivons, que nous devons mener la vie que Dieu veut que nous menions. C'est sur terre que nous devons courir, combattre et faire des efforts afin de ne pas abandonner et afin d'avancer. Paul donne ici des pistes pour tenir ferme. Ça se voit par le fait qu'il commence son chapitre 3 par des exhortations. Il ne se lasse pas d'exhorter, c'est ce qu'il dit, d'encourager, de redire plusieurs fois les mêmes choses, afin que ses interlocuteurs puissent intégrer complètement son enseignement. Le contexte de ce passage est une mise en garde contre des enseignants qui cherchent à promouvoir de fausses doctrines. Des doctrines et des manières d'agir qui ne correspondent pas à l'essence de la foi chrétienne. Alors que dans le chapitre 1, versets 27 à 30, Paul exhortait les Philippiens à tenir ferme contre les persécuteurs extérieurs à l'Église, il redoute ici un danger beaucoup plus pernicieux, capable de détruire l'Église de l'intérieur. La mise en avant de manières de courir, donc de vivre, qui correspondent à une vision terrestre des choses, mais qui ne correspondent pas à la vision que Dieu voudrait que nous ayons, et c'est cela que Paul va combattre. Et nous allons les passer en revue. Il y en a deux. Il y a ce que Paul appelle le danger des chiens et le danger des ennemis de la croix. Donc tout d'abord, ce que j'appellerais le danger des chiens, verset 3. Paul est virulent, car il a vraiment très peur par rapport au danger que court l'église de Philippe. Il fait une triple mise en garde. Ça fait une forte répétition de verbes à l'impératif. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. Si après ça, ses lecteurs n'ont pas compris qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un problème ou qu'ils sont sacrément bouchés. Alors, on ne sait pas vraiment à qui il fait référence. Sans doute à des prédicateurs qui étaient à moitié juifs, à moitié chrétiens, des prédicateurs judéo-chrétiens, qui disaient qu'il fallait se faire circoncire. Et qui disaient que les chrétiens n'auront plus à connaître la souffrance et la persécution sur terre, car ils vivaient dans la gloire de Christ. Traiter quelqu'un de chien, dans la culture de l'époque, était très méprisant, extrêmement insultant. Car les chiens étaient des bêtes errantes qui attaquaient parfois les hommes. Ce n'étaient pas les gentils animaux de compagnie que l'on connaît aujourd'hui dans les sociétés occidentales. C'est plus un peu comme les chiens dans certains pays de l'Est, à Bucarest, où c'est une plaie parce qu'il y en a partout. Et ils attaquent les gens. Donc c'est vraiment vu comme quelque chose d'extrêmement négatif. Les juifs, à l'époque, utilisaient cette expression en général pour parler des païens, qu'ils méprisaient en général. Et donc Paul est très méprisant envers les personnes dont il parle. En plus de les traiter de chiens, il les traite de mauvais ouvriers, c'est-à-dire de mauvais enseignants. Et il parle ensuite de faux circoncis. Donc il les rhabille bien pour l'hiver. La circoncision, c'est cet acte qui symbolisait l'appartenance au peuple juif, au peuple que Dieu avait choisi pour faire alliance avec lui. Cet acte religieux primordial, il voulait l'imposer à tous les chrétiens. Il partait du principe que même les non-juifs devaient respecter les règles rituelles juives, et que sans cela, ils ne pourraient être sauvés. En grec, Paul utilise une terminologie qui tourne en dérision l'acte même qui est mis en avant par ses opposants. Il n'utilise pas le mot circoncis, mais le mot mutilateur. Donc c'est vrai que ça ferait bizarre si on était dans la traduction mutilateur, donc en général c'est faux circoncis, mais a priori, en grec, c'est mutilateur. Comme si cet acte religieux très important était mal effectué. Comme si la circoncision qu'il mettait en avant n'était pas la bonne. Comme si la pratique religieuse mise en avant par ces mauvais enseignants n'avait pas d'importance. Et en effet, la pratique religieuse n'intéresse pas vraiment Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est l'attitude de cœur. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà souligné cela en mettant en avant ce qu'ils appelaient la circoncision du cœur. Ce qui importe n'est pas d'avoir la marque physique d'appartenance au peuple de Dieu, mais c'est d'appartenir au peuple de Dieu dans son être intérieur. Et pour Paul, appartenir au peuple de Dieu, c'est mettre sa foi en Jésus. C'est rendre un culte inspiré par et conforme à l'Esprit de Dieu, et ne pas se confier en son origine ethnique. Le salut ne vient pas de l'appartenance à un peuple terrestre et à l'observance de coutumes diverses et variées. Pourtant, Paul appartenait à ce peuple. On voit ça au verset 5 et 6. Il était fier de faire partie de la tribu de Benjamin, car il s'agissait d'une des tribus qui était restée fidèle à la dynastie de David, c'est-à-dire à la dynastie du premier roi d'Israël, qui était restée entièrement fidèle à Dieu. Et c'était une tribu qui était restée plus pure religieusement et racialement que les autres. Il était hébreu, né d'hébreu, c'est-à-dire que dans sa famille, il n'y avait aucun mélange de sang non-juif. Il appartenait à une famille très pratiquante d'un point de vue religieux. Et contrairement à ce qui s'était produit dans les familles juives qui ne vivaient pas en Israël, la famille de Paul n'avait pas cherché à s'assimiler à la culture grecque qui l'entourait. Il avait appartenu à un groupe religieux très strict, les pharisiens. Il avait combattu un temps pour un judaïsme très rigoureux, en combattant même l'Église. Donc en gros, si comme l'enseignent les faux enseignants, on est sauvé par le respect des règles rituelles, des règles de la loi de Dieu, alors Paul est plutôt tranquille. Mais c'est pas ainsi que cela fonctionne, et il rejette cette manière de voir. Donc ça, c'était pour le danger des chiens. Le deuxième danger est celui qui est dénoncé dans les versets 18 et 19. Ceux que j'appellerais les ennemis de la croix. Et Paul est tout aussi virulent pour les dénoncer, puisqu'il dit « Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. » De qui s'agit-il ici? Peut-être des mêmes personnes qu'en début de chapitre, donc que les chiens qu'on a vus, auquel cas « ils ont pour Dieu leur ventre » fait référence aux règles alimentaires très importantes dans le judaïsme. Mais j'aurais tendance à penser qu'il parle plutôt ici de chrétiens un peu libertins. Ces derniers seraient ennemis de la croix car ils refusent de laisser de côté leur convoitise, ils refusent de crucifier leur convoitise. Leurs désirs égoïstes viennent en premier dans leur vie. Ils n'apprécient que le présent et le concret. Ils se livrent à la débauche. Ils cherchent leurs propres intérêts sur terre. Ils veulent profiter de tout à fond, mais Paul avertit que ce n'est pas compatible avec la vie chrétienne. Donc comme Paul le préconise, courons donc sur cette terre, mais sans rajouter de choses à l'œuvre de Jésus, sans nous perdre dans une pratique religieuse stérile, sans nous confier en nous-mêmes, sans nous laisser détourner par les attraits de ce monde. Car le résultat de vivre ainsi, c'est qu'à force de pouvoir profiter de tout, de vouloir profiter de tout d'un point de vue terrestre, on perd de tout d'un point de vue céleste. Donc ça, verset 19. Donc deuxième point, il nous faut courir de la bonne manière. Nous venons de voir les choses qu'il ne fallait pas faire, et il y a toujours de bonnes et de mauvaises manières de courir. Et si vous courez de la mauvaise manière, vous risquez de vous blesser, voire de mettre en danger votre capacité à courir dans de bonnes conditions à l'avenir. Et donc nous allons maintenant prendre un tournant un peu plus positif et voir la manière dont il faut courir. On peut commencer par évoquer l'encouragement initial de Paul au verset 1. « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Un appel à la joie, que l'on trouvait déjà dans le chapitre 2 et que l'on retrouve ensuite dans le chapitre 4. « Réjouissez-vous dans le Seigneur » pourrait signifier « se réjouir parce qu'ils sont dans le Seigneur » ou « à cause de ce que le Seigneur a fait ». Il y a certains commentateurs qui pensent que c'est peut-être une formule liturgique, comme « Alléluia », qui équivaudrait un peu à la formule « Louer le Seigneur » qu'on retrouve un peu partout dans les psaumes. Mais bon, je préfère les interprétations précédentes. On peut en tirer plus de choses dans une prédication. La joie est quelque chose auquel il faut tenir ferme, car c'est potentiellement fragile. Et les faux enseignants pouvaient ravir la joie des Philippiens. Selon un commentateur, le fait de rajouter d'autres facteurs que le Christ seul pour être sauvé est le plus grand danger qui menace la cause de la joie en Christ. Car la cause de leur joie est l'œuvre parfaite et suffisante du Christ. Deuxièmement, il faut également prendre de bons modèles. Verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Et verset 11, « Marchons dans la même direction. » Paul, du fond de sa prison, demande qu'on le prenne comme un modèle. Le thème du modèle est vraiment primordial dans cet épître, mais cela vous l'avez déjà vu les semaines passées, donc je ne le développerai pas. Et sinon, comme troisième point, pour pouvoir courir, il faut bien entendu aussi se mettre en mouvement. Courir de main sur place, comme ça, sans bouger, c'est un peu compliqué. Il y a une petite contradiction dans les termes. Donc au verset 12 et 14, on a le mot « courir ». Au verset 12, toujours, on a tâché de s'en emparer, donc on voit ici un peu aussi cette idée de mouvement. Verset 13, « se porter vers ce qui est en avant ». Verset 16, « marchons ». Bref, il ne faut pas rester statique. Il ne faut pas se contenter de son état spirituel présent. Il faut tout faire pour tendre vers la maturité spirituelle. Et celui qui a suivi les règles données par l'apôtre atteint un certain degré de maturité dans la vie chrétienne. Quatrièmement, il y a un point particulier pour pouvoir courir dans la course, vraiment courir dans la course chrétienne. Il faut d'abord renoncer à courir par soi-même. Il faut s'abandonner. Abandonner toute prétention à être quelque chose par soi-même. Au verset 7, ces qualités qui étaient pour moi un gain, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Paul venait de faire une liste de qualités qui étaient importantes, essentielles aux yeux de ses contemporains. Elles le rendent crédible à leurs yeux quand il parle. C'est comme si je disais en introduction de cet enseignement, je suis docteur en théologie, j'ai fait ma thèse sur la lettre aux Philippiens, j'ai passé plusieurs années à travailler dans la plus grosse église de France, et il y a des théologiens dans ma famille depuis 4 générations. Forcément, vous allez vous dire que je suis crédible. Et vous aurez un a priori favorable sur ce que je vais vous raconter. Bon, je vous rassure, rien de ce que je viens de dire n'est vrai. Mais en fait, Paul dit là que, en soi, ce qu'il est et ce qu'il a fait n'a aucune importance. Il abandonne tout ce qui fait sa crédibilité au sein du monde juif. Et il dit qu'il considère cela comme des ordures ou de la boue. On peut aller, dans certains traducteurs vont plus loin en disant des excréments. Et ce qui est important pour lui, c'est Jésus. Il veut oublier son passé valorisant. C'est au verset 13. La seule source de confiance qu'il veut avoir, ce n'est pas ce qu'il a fait, mais la connaissance de Jésus. Au verset 8. C'est là un bel exemple de lâcher prise. Et la connaissance de Jésus par opposition à la confiance en soi humaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Connaître Jésus dans le langage du Nouveau Testament, ce n'est pas savoir qui il est intellectuellement. Mais c'est savoir qui il est personnellement et être en relation avec lui. La relation que Paul a avec Christ est une relation passionnée. Le fait de connaître Christ fait qu'il a une position particulière devant Dieu. Pour connaître pleinement Christ, il faut avoir la foi. Il faut avoir fait le choix de la foi en lui. De la foi dans le fait que son œuvre suffit pour nous sauver, et que grâce à lui, Dieu peut nous considérer comme justes. C'est ce qu'on appelle la justice de la foi, qu'on voit au verset 9. Par opposition à la justice de la loi, qui est le fait de devoir respecter la loi pour que Dieu nous considère comme justes. Du coup, Paul, ayant la foi, il ne court plus par lui-même, mais c'est Christ qui le fait courir. Et on voit ça au verset 12, « De moi aussi, Christ s'est emparé. » Et enfin, cinquième petit point sur comment il faut courir de la bonne manière. Courir implique de souffrir. Alors déjà, physiquement, si on va faire un footing, on peut sentir facilement notre souffrance. Mais c'est valable aussi dans la course chrétienne. On voit cela au verset 10. Il est question de devenir conforme à Christ dans sa mort. De quoi s'agit-il ? Est-ce souffrir comme lui ou est-ce autre chose ? Devons-nous prendre les souffrances que nous expérimentons dans notre vie quotidienne comme une manière de nous identifier à Christ et de mieux le comprendre, de mieux savoir qui il est ? Ou est-ce qu'il est simplement ici question des souffrances injustes subies pour l'Évangile, des souffrances qui sont le résultat de la proclamation du message de Jésus ? Et à valoriser comme ça la souffrance, est-ce qu'il n'y a pas un risque de valoriser la souffrance, de la considérer comme positive alors qu'elle est simplement inéluctable du fait d'un monde déchu, mauvais et opposé à Dieu ? Le masochisme n'est pas une vertu chrétienne. L'autoflagellation non plus. La recherche de l'ascèse à tout prix pour s'identifier aux souffrances de Christ ne me paraît pas très biblique. Mais une chose est sûre, un objectif du chrétien est de mieux comprendre qui est Jésus. Et alors qu'il est en train d'expérimenter la souffrance, le chrétien peut se rappeler les souffrances de Jésus et peut-être mieux comprendre un petit aspect de ce qu'il a vécu. Comme Christ a souffert, ses disciples souffriront aussi. Jésus l'avait annoncé déjà alors qu'il était encore sur terre. Il faut s'y attendre, ne pas être surpris. Ne pas s'imaginer que le fait d'être sauvé, de connaître le Fils de Dieu, ça fait que la souffrance disparaît. Ça fait que les problèmes sont résolus, que l'on vit une vie de victoire en victoire. Il y a des victoires, mais elles sont souvent dans notre faiblesse, comme Paul l'écrit dans une autre lettre à l'église de Corinthe cette fois. Et cette faiblesse... Ces victoires sont dans la faiblesse pour qu'on ne s'imagine pas que c'est par nos propres forces qu'on arrive à la victoire, mais qu'on se rende bien compte que c'est par la grâce de Dieu. Il faut donc courir de la bonne manière. Courir de la bonne manière, c'est donc se mettre en mouvement, en prenant de bons modèles, c'est renoncer à soi-même, c'est souffrir, mais c'est également tout faire pour maintenir la joie. Et cette joie fait le lien avec notre troisième partie. Mon dernier point, courir pour gagner le ciel. Il y a un but, il y a une récompense, il y a un prix. Paul ne court pas pour rien, il ne court pas pour courir, il ne vit pas pour rien. Une chose qui ressort de ce texte, c'est la certitude de Paul que ce qu'il fait, ce qu'il vit, a un sens. Il sait qu'il entrera au ciel, et c'est cette certitude qui le porte. C'est ce que l'on appelle l'espérance chrétienne, de savoir que ses difficultés auront une fin, et qu'il sera pour toujours avec Dieu. Paul dit dans le verset 8 qu'il veut... gagner Christ. Paul ne possède plus rien par lui-même, mais il court pour gagner Christ. Ce dernier vit déjà en lui. Mais en réalité, il y a toujours plus à attendre, plus à obtenir, plus à découvrir. Paul veut remporter le prix, verset 12. Car le prix qui est d'atteindre la perfection n'est pas encore d'actualité. La perfection ne peut être atteinte dans la vie présente. Face aux faux enseignants qu'on avait vu au début, qui disent le contraire, Paul fait preuve d'humilité en disant qu'il n'est lui-même pas parfait. Une commentatrice disait qu'il ne veut pas s'appuyer sur sa communion présente avec le Christ pour présumer de l'avenir, car la condition nécessaire est de persévérer. Paul dit aussi qu'il veut parvenir à la résurrection des morts, verset 11. Il ne s'interroge pas sur le fait qu'il y parviendra ou pas. Pour lui, c'est acquis. La seule chose sur laquelle il s'interroge, c'est ce qu'il devra traverser, ce qu'il devra endurer avant d'y arriver. Dans le verset 14, Paul dit qu'il veut également remporter le prix de l'appel céleste de Dieu, ou de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme on est là dans une métaphore de la course, il s'agit sans doute d'un prix qui couronne la victoire, qui couronne la persévérance, qui couronne le fait d'avoir répondu à l'appel de Dieu. Lequel retentit du début à la fin de la course, du début à la fin de la vie de chaque personne. Paul dit aussi que notre droit de cité est dans le ciel, verset 20. Ou ici, on a, nous sommes citoyens des cieux, ou citoyens du ciel. La citoyenneté romaine avait une grande valeur à l'époque, et elle impliquait également des responsabilités. À l'époque de Paul, seul l'empereur pouvait accorder la citoyenneté romaine, et c'était un acte de patronage. Alors, est-ce que certains ici savent ce que c'était le patronage sous l'Empire romain ? Expert en histoire.
Faut que j'explique ?
Bon.
C'était il y avait un système de patronage, et peut-être que vous connaissez plus le nom de clientèle. On répond plutôt sous le terme de clientèle. En gros, on se mettait au service de quelqu'un qui subvenait à nos besoins. Et alors, soit il y avait différents degrés, soit on habitait vraiment dans sa maison, soit on n'habitait pas dans sa maison, mais on était assez frais, contre service.
Parfait. Je n'avais pas écrit tout ça, donc justement, c'est... Merci beaucoup. Donc l'empereur devenait le patron du nouveau citoyen, et ce dernier était le client de l'empereur. Cela créait une relation de redevabilité envers l'empereur, puisque le client avait un devoir de loyauté personnelle envers son patron, comme l'a dit Marie. En tant que client du patron céleste, les chrétiens ont des devoirs de loyauté envers lui, notamment celui de vivre conformément à ses préceptes et de tenir ferme en restant attaché au Seigneur. Les lecteurs de la lettre comprenaient facilement toutes les implications de cette image de citoyen. Car Philippe était une colonie romaine et tous les citoyens de la ville étaient aussi citoyens romains. Être citoyen du ciel, avoir des droits dans le monde à venir, quel honneur! Personnellement, je trouve ça magnifique comme perspective. Mais cette cité n'est pas pour tout de suite. Il faut attendre. Attendre le retour de Jésus comme sauveur, qui mènera dans le ciel ceux qui auront persévéré jusqu'au bout de la course. Paul dit enfin que Christ transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Verset 21. Le corps est faible et Paul en savait quelque chose. Son corps le faisait souffrir. Il avait cette espérance que son corps serait un jour délivré du poids de la souffrance, de l'impact du mal dans le monde, pour avoir un corps qui ressemble à celui de Jésus depuis sa résurrection. Un corps qui ne connaît pas les difficultés. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez que il a des propriétés très particulières qui font vraiment rêver. Alors, je ne sais pas si le corps futur des êtres humains serait parfaitement identique au corps que Jésus avait, mais bon, il peut traverser les murs. Rien que ça le fait, je trouve. Donc bref, le but de la course est de gagner le ciel, être citoyen du ciel, avoir un corps renouvelé, sachant que pour les obtenir, il suffit de persévérer dans la foi jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Pour conclure, je dirais que l'exemple que Paul nous donne ici est un modèle d'humilité et de victoire. Il nous faut courir sur terre de la bonne manière pour gagner le ciel. Je vais mettre le slide suivant. Sympa comme perspective, non ? Vivre sur terre, dans des conditions parfois difficiles, en refusant les compromis, mais dans la joie, avec l'assurance de l'aide de Dieu et l'assurance que la victoire est assurée. Et la récompense à la fin, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Alors je voudrais revenir brièvement sur le verset 7. Ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ces derniers temps, à titre personnel, il m'est arrivé de me dire que tout ce sur quoi j'avais construit ma vie pendant pas mal d'années, mes diplômes, mon travail, mes voyages, ma culture générale, tout cela n'était rien, que ce n'était que du vent au regard de l'œuvre du Christ. Fonder sa vie et son identité sur autre chose que Christ est une erreur. Et la société actuelle et parfois une certaine mentalité dans les églises nous incite à le faire, en mettant en avant les personnes qui ont du succès. En France, on fonde beaucoup son identité sur les études que l'on a faites, sur le travail que l'on a, sur l'endroit où l'on vit. Nous mettons notre fierté ou notre mésestime de nous-mêmes dans ce que nous faisons ou ce que nous ratons, dans ce que nous possédons ou n'avons pas. Réfléchissons-y. J'aimerais tant que nous puissions chacun, et moi le premier, réaliser à chaque instant à quel point Christ est grand. Quand il m'arrive de prendre conscience de cela, ce qui n'arrive malheureusement pas très souvent, cela me remplit de joie et d'humilité. Et j'aimerais tant pouvoir vivre cela tout le temps. Vivement le ciel. Et pour reprendre une conclusion que j'ai trouvée sur Internet, que le Seigneur ait vraiment la première place en toute chose et que nous goûtions une vraie joie en lui, sans détourner nos regards du but glorieux qu'il place devant nous. Voilà. Et j'arrive à 29 minutes et 55 secondes.
Oh. 30 minutes.